Décryptage, Loïc Bussière.
Pour ceux qui s'interrogeaient encore, non, la traduction française du mot Brexit n'est pas long fleuve tranquille. De fait, rien n'est vraiment simple depuis 2016 et la décision britannique de tourner le dos à Bruxelles. Le résultat du référendum continue de diviser. Outre-Manche, il a entraîné 2 déménagements au 10 Downing Street, 3 reports dans le calendrier initial et 4 ans après, les négociations entre Union européenne et Royaume-Uni tiennent plus du bras de fer que de l'entente cordiale entre futurs ex. Et illustration, ce dernier coup de menton de Boris Johnson la semaine dernière, à quelques jours d'une reprise des discussions avec Bruxelles, le Premier ministre dégaine un projet de loi qui remet en cause le protocole de sortie de l'Union, protocole qu'il avait pourtant lui-même signé. Les députés britanniques entamaient ce lundi l'examen du texte. Les parlementaires, dont certains s'interrogent au même titre que les négociateurs européens, essaient le scénario d'un no deal qui se dessine avec de plus en plus d'insistance. Alors à quoi joue Boris Johnson à quelques mois de l'entrée en vigueur du divorce ? On en parle ce soir avec nos invités. Bonsoir Emmanuel Saunier-Cassia.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de droit public à l'université Paris-Saclay et spécialiste de la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir le Brexit. En ligne avec nous également Georgina Wright. Bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Londres, vous êtes analyste Brexit, spécialiste également des affaires européennes à l'Institute for Government de Londres. Alors, je le disais à l'instant, ces négociations autour du Brexit, depuis le début, elles sont très chaotiques, on peut le dire. Theresa May, qui était Première ministre avant Boris Johnson, n'y a pas résisté, d'ailleurs. Est-ce que, je m'adresse à vous dans un premier temps, Emmanuel Saunier-Cassia, est-ce que ce dernier épisode en date, celui donc d'un projet de loi proposé par Boris Johnson, est-ce qu'il résume la difficulté des discussions entre Bruxelles et Londres?
Je ne sais pas s'il résume les difficultés que les négociations connaissent, comme vous l'avez rappelé, depuis le début, c'est-à-dire aussi bien pour la négociation sur l'accord de retrait que les négociations actuelles qui portent sur un autre accord, qui est l'accord sur les relations futures, mais lequel doit tenir compte du premier accord, l'accord sur le retrait. Et là, la question de ce projet de loi, c'est de savoir dans quelle mesure Boris Johnson, qui, comme vous l'avez rappelé encore, qui a négocié l'accord sur le retrait, pourrait s'affranchir de ce qu'il contient s'agissant de son application, en fait. C'est-à-dire de comment on va mettre en œuvre notamment le protocole sur l'Irlande du Nord. Et cela en pleine négociation, alors que la date ultime n'a pas encore expiré. Pour le futur accord.
Elle va expirer dans
quelques mois, 31 décembre, sachant que normalement, il aurait fallu avancer au 1er juillet pour être certain que l'accord puisse être ratifié correctement.
Georgina Wright, une première analyse justement sur ces problèmes à répétition, entre guillemets, entre Bruxelles et Londres.
Effectivement, je pense que si l'analyse est juste là, on parle vraiment de l'accord de retrait. Et le Premier ministre, dans la Chambre des communes tout à l'heure, disait, voilà, nous tentons de trouver une bouée de sauvetage au cas où le comité adjoint ne se met pas d'accord sur la mise en œuvre du protocole. Maintenant, évidemment, du point de vue de l'Union européenne, c'est que l'accord de retrait est très clair sur ce qui peut et ne peut pas se passer quand on parle de la mise en œuvre du protocole. Donc c'est vrai que je pense que l'Union européenne a été prise un peu à court. Maintenant, pour ce qui s'agit évidemment de l'accord de libre-échange, l'Union européenne a été très claire dès le début, il n'y aura pas d'accord de libre-échange sans la mise en œuvre totale et complète de l'accord de retrait. Donc c'est vrai que là, nous sommes à un point assez difficile et important dans les négociations.
Alors on peut rappeler ce qui est le nœud du problème justement des discussions qui nous concernent en ce moment entre Bruxelles et Londres et sur lesquelles tente de revenir Boris Johnson, c'est l'Irlande, plus précisément l'Irlande du Nord, Emmanuel Saunier-Cassia, qui pourrait donc bénéficier de dispositions douanières particulières selon l'accord qui a été signé.
L'accord de retrait prévoit dans un protocole spécifique qui est annexé à l'accord un certain nombre de points essentiels qui sont notamment qu'il n'y ait pas de frontières physiques qui soient remises en place entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. pour préserver le fameux accord dit du Vendredi Saint, pour éviter toute difficulté à cette frontière, sachant que l'Union européenne s'est beaucoup impliquée dans la négociation de ce Good Friday Agreement, a mis beaucoup d'argent pour que la paix soit rétablie à la frontière, pour maintenir les arrangements qui existent actuellement, ce que l'on appelle la zone de voyage commune, qui permet une liberté de circulation des citoyens sur les deux territoires de cette même île. Mmh. On est quand même dans une situation tout à fait inédite et tout à fait incroyable d'avoir un bout du Royaume-Uni sur une île et d'avoir en même temps un autre État membre de l'Union européenne sur ce même territoire, sur cette même île. Donc nécessairement, ça entraîne des problèmes pratiques en termes de liberté de circulation des personnes, je viens d'en parler très rapidement, mais aussi de liberté de circulation des marchandises, parce qu'une fois que la période de transition sera terminée, eh bien les règles du droit de l'Union européenne ne s'appliqueront plus au Royaume-Uni et la frontière extérieure théorique passera par cette frontière irlandaise. Et donc il s'agit de savoir comment faire pour contrôler les marchandises qui pourraient transiter par l'Irlande du Nord, pour soit rester en Irlande du Nord, ou c'est-à-dire sur le territoire britannique, le territoire douanier britannique, soit éventuellement transiter par l'Irlande du Nord pour passer en République d'Irlande, donc sur le territoire de l'Union européenne.
Mais en ce qui concerne justement ce problème précis, un texte a déjà été signé, je le rappelais en préambule, entre Londres et Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, Boris Johnson accuse l'Union européenne de vouloir imposer une barrière douanière justement au Royaume-Uni ?
Parce que d'abord Boris Johnson est de très mauvaise foi, profère un mensonge de plus, puisqu'encore une fois, lui-même a négocié l'arrangement, qui était d'ailleurs un arrangement qui avait été refusé au départ par Theresa May, sur lequel le gouvernement britannique et l'Union européenne avaient beaucoup de mal à se mettre d'accord. Et comme l'a dit ma collègue au téléphone, tout est prévu en réalité, tout est bordé dans le protocole si jamais il y a des difficultés. Il y a tout un tas de dispositifs et de dispositions qui permettent, en cas de difficulté d'application de l'accord, de résoudre la question, soit par la réunion d'un comité, soit par une procédure, le cas échéant, de règlement des différends. Mais donc, on n'a pas besoin de ce filet de sécurité via un projet de loi ou une loi à venir qui serait adoptée avant la fin de la période de transition, parce que, justement, tout a été négocié pour pallier les éventuelles difficultés.
Georgina Wright, votre point de vue sur la mauvaise foi supposée de Boris Johnson, mise en avant par Emmanuel Sonier-Cassia.
C'est très difficile de comprendre exactement la stratégie du Premier ministre. Je veux dire, même lundi matin, on a dit qu'il était clair que le Royaume-Uni voulait un accord de libre-échange, qu'il n'était pas question de remettre en cause le protocole ni l'accord de retrait, mais qu'il s'agissait de mettre en place une bouée de sauvetage. Alors là, la question est-ce que le Royaume-Uni a peur, en quelque sorte, que le comité adjoint, donc que l'Union européenne et le Royaume-Uni, ne puissent pas se mettre d'accord sur la mise en œuvre du protocole et que donc il faille cette bouée de sauvetage? Ou bien est-ce que c'est vraiment une réelle tentative de mettre pression sur l'Union européenne pour que le Royaume-Uni puisse avoir la mise en œuvre du protocole qu'elle désire et non celle qui a été établie et écrite au sein du protocole et de l'accord de retrait? Mais je pense qu'il est très difficile, même pour des analystes ici basés à Londres, de comprendre la stratégie du Premier ministre. Et je pense que tout dépend un peu de ce qui se passe au Parlement au cours des prochains jours et des prochaines semaines.
Est-ce qu'on peut parler uniquement, Emmanuel Sonier-Cassia, de provocation? C'est un petit peu trop facile de résumer le personnage de Boris Johnson justement à ce seul mot, même si on serait tenté, effectivement, étant donné le résumé que vient de faire Georgina Wright, d'aller dans cette voie-là.
Oui, il y a une dimension stratégique dans toutes les déclarations, de toute façon, de Boris Johnson. On y est accoutumé depuis un certain nombre de mois. Est-ce que ce n'est que cela? La réaction du Parlement va être très très intéressante, aussi bien à la Chambre des communes qu'à la Chambre des Lords, parce que le fait d'avoir affirmé, en tout cas l'un des ministres à la Chambre des communes elle-même, la semaine dernière, que le texte de loi pourrait, le cas échéant, violer les obligations internationales du Royaume-Uni, c'est quand même quelque chose d'assez inouï et d'assez inédit qu'un ministre de la Couronne ose avouer que dans le cadre d'un projet de loi, le législateur potentiellement viendrait enfreindre la rule of law par application du principe de souveraineté parlementaire et qu'en gros, on n'en a rien à faire du droit international, on fera exactement comme on veut, ça a quand même coincé, y compris au sein du Parti conservateur. Et à la Chambre des Lords en particulier, certains lords ont dit qu'ils s'opposeraient bec et ongles à l'adoption d'une telle incongruité juridique et politique. Donc, stratégie, provocation, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour moi, en tout cas, d'une très grande maladresse.
Georgina Wright, cette manière de discuter d'une façon de s'affranchir justement du droit international, est-ce qu'elle recueille justement du côté des députés de la majorité conservatrice, est-ce qu'elle recueille de bons échos?
Écoutez, ça dépend vraiment à qui on s'adresse. Enfin, moi, j'ai eu beaucoup de conversations ces derniers jours. Il y a certains députés qui sont très mal à l'aise par rapport à ça, qui disent absolument pas, le Royaume-Uni respecte le droit international et il n'est pas question de faire quoi que ce soit pour endommager le droit international et nos propres promesses que nous avons faites à l'Union européenne avec l'accord de retrait. Maintenant, il y a d'autres députés qui sont effectivement, qui ont un peu peur du protocole, qui ont peur que l'Union européenne et le Royaume-Uni ne puissent pas se mettre d'accord sur la mise en œuvre et que cela poserait réellement un problème à l'avenir pour le commerce au sein du Royaume-Uni et qui donc sont prêts en fait à soutenir cette bouée de sauvetage comme ils le voient.
Vous parliez tout à l'heure de difficultés à comprendre la stratégie de Boris Johnson. On peut toutefois essayer d'y voir plus clair avec vous en tout cas et de se demander pourquoi est-ce qu'il prend cette décision maintenant à moins de 4 mois de la fin de la période de transition. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas tenté de négocier plus avant lors des précédents de négociations justement, Georgina Wright?
Ben, c'est la grande question, parce qu'effectivement, le problème, c'est vraiment la partie de l'accord de retrait que lui a négocié en tant que Premier ministre et évidemment que le Parlement a soutenu en janvier. Donc c'est vrai que l'Union européenne, mais aussi beaucoup d'analystes au Royaume-Uni, se posent la question, ben, s'il s'agit réellement d'un problème, pourquoi est-ce que le Parlement a soutenu cet accord de retrait? Maintenant, est-ce que c'est parce que le Premier ministre s'est rendu compte seulement maintenant un peu de l'accord de retrait, ce qu'il en est et de la mise en œuvre, ou bien est-ce que c'est plutôt une stratégie pour mettre pression sur l'Union européenne? C'est la grande question et malheureusement, ce n'est pas la réponse.
Emmanuel Saunier-Cassia, est-ce que cette manière, en tout cas, de, je ne veux pas dire d'aller dans le mur, mais de dénoncer un accord qui a été validé précédemment, est-ce que c'est une manière de se préparer au scénario du pire, en l'occurrence, vous me voyez venir avec mes gros sabots, à celui d'un no deal?
Oui, bien sûr.
Donc d'un Brexit sans accord.
C'est une façon de préparer l'opinion en montrant ses muscles et en disant, voilà, ils vont voir ce qu'ils vont voir, et puis on n'a pas besoin d'eux, et puis notre Global Britain, on va la faire quand même. Je pense que l'une des raisons peut-être, j'ai peut-être tort, mais l'une des raisons peut-être est aussi l'impréparation du Royaume-Uni sur le plan très matériel, très technique, et la peur que la manière dont les contrôles devraient être menés pourraient être menés, parce que on n'a quand même pas beaucoup d'indications sur la manière dont ça va se faire. C'est-à-dire il faut éviter au maximum que les contrôles très techniques soient opérés dans certains lieux afin d'éviter les engorgements, tout simplement, de camions ou de bateaux qui feraient des queues interminables. Donc le fait de scanner des codes-barres, on n'a jamais expérimenté encore. Donc je pense qu'il y a une vraie crainte que techniquement ça soit compliqué, que ça soit difficile. Il y a aussi le fait que le Covid est passé par là et qu'il y a des coûts qui n'étaient pas du tout prévus dans la balance et qui vont ne faire qu'augmenter les difficultés économiques et financières du Royaume-Uni et qui font que c'est peut-être un petit peu la panique aussi au sein du gouvernement de ce côté-là.
Georgina Wright, est-ce que Boris Johnson, il prépare justement l'opinion à une sortie de l'Union européenne sans accord?
Je ne sais pas, mais c'est vrai que si on se concentre encore aujourd'hui au sein de la Chambre des communes, le Premier ministre a été très, très clair. La volonté du gouvernement, c'est de trouver un accord de retrait, de négocier un accord de retrait et de passer l'accord de retrait avant la fin de l'année. Et que ça, c'était la volonté première du gouvernement. Maintenant, évidemment, il y a la question de l'accord de retrait parce que l'Union européenne était très claire. Si l'accord de retrait n'est pas mis en œuvre de manière complète et totale, il n'y aura pas d'accord de libre-échange. Donc c'est la grande question. Je pense qu'effectivement le Premier ministre veut un accord de libre-échange, c'est absolument clair. Maintenant, tout dépend un peu de ce qui se passe au cours des prochains jours et des prochaines semaines avec ce projet de loi qui mettrait in jeopardy, comme on dit en anglais, l'accord de retrait.
Qui mettrait en danger en français.
Voilà, tout à fait.
Qui, parce que là vraiment, on est dans un bras de fer hein, entre Boris Johnson d'un côté, Bruxelles de l'autre, l'Union européenne de l'autre. Qui a le plus à perdre dans ce bras de fer-là? Les Européens
c'est difficile
ou les Britanniques
à dire. Tout le monde a à perdre. Mais le Royaume-Uni, au regard des chiffres en termes d'échanges commerciaux, a davantage à perdre sur le papier que l'Union européenne. Simplement, dans l'Union européenne, il y a des États qui vont plus perdre que d'autres sur certains terrains s'il n'y avait pas d'accord sur les relations futures, notamment la France, pour les raisons de politique de la pêche, par exemple. Donc c'est difficile d'établir un bilan comme ça a priori de qui sera le plus grand perdant, mais sur le papier c'est certainement le Royaume-Uni.
Georgina Wright, votre point de vue justement sur cette question, est-ce que le Royaume-Uni serait le grand perdant justement d'un bras de fer avec Bruxelles?
Bah, tout dépend de nouveau de la perspective qu'on apporte à ce sujet. Je pense que du point de vue du gouvernement, il est clair qu'il préférerait un accord de libre-échange. Maintenant, ils sont en train de peser évidemment le côté politique. Et c'est vrai que si l'accord de libre-échange voit le Royaume-Uni suivre les règles de commerce ou les règles commerciales de l'Union européenne sans avoir l'opportunité et la liberté de pouvoir décider de son propre projet d'État d'aide, etc., de state aid subsidy, comme on dit en anglais, c'est vrai que peut-être que la préférence est d'aller pour un no deal et de faire de couper court, si vous voulez, les relations et ensuite de revenir à la table de négociation plus tard et de recommencer à zéro. Maintenant, il est clair que pour l'Union européenne, il n'est pas certain que l'Union européenne commencerait du même point de vue et peut-être que les demandes de l'Union européenne seraient encore plus rigides que celles qu'on voit maintenant s'il y a effectivement une sortie sans accord. Donc on verra bien.
Pour finir, justement, on a beaucoup parlé du Royaume-Uni, de la position de Boris Johnson, moins de celle de l'Union européenne. Quel moyen de pression, justement, a l'Europe pour essayer de faire, entre guillemets, revenir le Premier ministre britannique à la raison? Je cite Charles Michel, le président du Conseil européen, qui ce week-end dit qu'il est temps pour le gouvernement britannique de prendre ses responsabilités, Emmanuel Sonikassia.
Les moyens de pression sont assez limités. On ne peut pas forcer le gouvernement britannique à signer un accord ou prendre des engagements qu'il ne veut pas prendre. C'est extrêmement compliqué pour le négociateur européen. Déjà, ils ont réussi à rester unis dans la négociation. C'est déjà un très bon signe dans les difficultés que connaissent l'Union européenne ces dernières années. Ils sortiront gagnants de ce point de vue-là, peut-être, mais c'est quand même pas très satisfaisant comme résultat si on arrive à un no deal, évidemment.
Et on suivra bien évidemment avec intérêt la suite de ce bras de fer, comme je le disais, entre le Royaume-Uni et l'Union européenne, et la suite de ce feuilleton du Brexit qui devrait se terminer tout de même dans les mois à venir. On n'en dira pas plus en tout cas ce soir. Merci à nos invités, Emmanuel Sonikassia. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'Université Paris Saclay et spécialiste, on l'a entendu, du Brexit, tout comme Georgina Wright qui était en direct de Londres, analyste Brexit et des affaires européennes à l'Institute for Government de Londres. À suivre sur RFI, le débat du jour, Guillaume Nodin questionne ce soir avec ses invités les liens économiques entre Pékin et Bruxelles à l'occasion du sommet virtuel Europe-Chine.